CKUT 90.3 FM in Montreal and on www.ckut.ca on the World Wide Web. News, interviews, and music featuring the voices of prisoners, their allies, and supporters. Tune into the Prison Radio Show on the fourth Friday of every month between 11 a.m. and noon, and every second Thursday of the month between 5 and 6 p.m. To get involved in Prison Radio, or if you need to access past programs, email prison@ckut.ca.
You're listening to the Prison Radio Show. My name is Yasmin, and I'll be your host for today. We would like to acknowledge that CKUT is located on unceded Haudenosaunee, Anishinaabeg, Abenaki, and Mohawk territories. The Kanyagahaga Nation is recognized as the custodians of the land and waters on which we gather today. Jajaki, Montreal, is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. Today's show features an interview with Alessandro Stella. Alessandro is an Italian political refugee who lives in France. He talked to us about the situation facing Italian political refugees in France, seven of whom were arrested at the end of April and are facing extradition to Italy. The interview is in French. You're listening to the Prison Radio Show on CKUT, 90.3 FM, 91.7 on cable, and www.ckut.ca. And now for some news. There was a demonstration in Kanesatake on Saturday, May 22nd, to protest the ongoing development and sale of the pines. Kanesatake land defenders and their allies were calling for a moratorium on real estate development, which is encroaching on the Kanyagahaga territory. This demonstration and call for a moratorium comes on the heels of a similar moratorium called for by the chiefs of the Haudenosaunee Confederacy Council with regards to the Grand River Territory. That struggle has also involved the ongoing occupation at 1492 Landback Lane, which is blocking a development company from continuing to build houses along the Haldimand Track. You can find out more about the struggle in Kanesatake by visiting Ellen Gabriel's Twitter account at Ellen Gabriel 1, and more about the moratorium on development in so-called Southern Ontario by visiting protectthetrack.com. In other 1492 Landback Lane related news, spokesman Skylar Williams turned himself in to the police in Cayuga, Ontario on May 19th. Williams faces 6 charges in relation to the occupation and was released with conditions saying he is not to return to the 1492 Landback Lane occupation. Williams is one of dozens of people who have been arrested in connection with the occupation, which will celebrate its one-year anniversary this summer. May 25th marked 1 year since police officer Derek Chauvin murdered George Floyd. Over 350 people are still facing federal charges related to the protests that came in the wake of Floyd's murder. Organizers in the U.S. are calling on President Biden to drop the charges. Jailhouse Lawyers Speak, an organization inside prisons in the U.S., has called for demonstrations to happen across the U.S. on August 21st and September 9th. The initiative is being called Shut 'Em Down in the Spirit of Abolition. JLS is asking outside organizations who commit to demonstration to highlight prisoners' historical struggles and the current political struggles to dismantle the prison industrial slave complex. For those who don't know the significance of the dates, August 21st is the day George Jackson was murdered by prison guards, and September 9th was the start of the Attica Uprising. Both of these events happened in 1971. You can visit imweubuntu.com/shutemdown. For more information, the Revolutionary Abolitionist Movement and the Muslim Jewish Anti-Fascist Front have called for 2 weeks of actions in remembrance from May 26th to June 7th to connect the Palestine struggle and the Black Liberation Movement in mutual support and solidarity. They write, "The uprisings in Palestine and the United States have demonstrated that when resistance is popularized, it makes it much harder to defeat. It is in this spirit that we call on people internationally to defiantly rise up against the U.S. and Israeli colonial violence. The date marks the start of the uprising in the wake of George Floyd's murder, as well as the one-month anniversary of the latest wave of uprising in Palestine." On the note of joining Solidarity Justice and anti-colonization movements, of Indigenous Nations in North America and Palestinians, I highly recommend checking out the Red Nation podcast episode from May 24th, 2021, called To Palestine with Love. And on that podcast episode of Red Nation, it's a great conversation with guest Justine Tiba and the hashtag Red Power Hour co-hosts Elena Ortiz, at Spirit of Pape, and Melanie Yazzie to discuss the ongoing fight for the liberation of Palestine. It's a super powerful listen, so I highly recommend it. Moving on to a very sad piece of news that has just come to our attention. Yesterday, Thursday, May 27th, Montreal in the world lost a great comrade, freedom fighter, international solidarity activist, prolific writer, reluctant academic, teacher, popular educator, and friend, Aziz Chaudhry, who was a professor at McGill for many years. Rest in power, Aziz. So friends and other affected persons mourn the passing of 55-year-old Aziz Chaudhry, a professor at McGill University in Canada. He has suddenly passed away. So it was May 26th, so the 2 days ago. He was born on June 23rd, 1966. He was an activist, researcher, and writer. Cause of death is yet to be confirmed, as Aziz Chaudhry had no known health issues. Accident or other causes of death have learned to be associated with his passing. There will be an online memorial for Aziz for all the people all over the world. He had many friends and comrades, and he was a mentor to many people. So on June 5th at 1:30 p.m. Montreal time, there will be a memorial, and you can check Prison Radio Show's WordPress and our Twitter account for the Zoom link and info, which we'll post later today. So on Monday, May 24th, the community gathered to commemorate the life of Regis Korchinski-Paquette, who was a woman in Toronto who was of Black and Indigenous origin, who died falling from her building while the police were there. And there's an investigation going on after one whole year without justice. Hundreds of protesters in downtown Toronto on Monday marked nearly 1 year since Regis Korchinski-Paquette fell to her death from a 24th floor apartment balcony last spring while the police were in her home. The community gathered on the grounds of Queen's Park for a memorial, news conference, and a march in honor of Korchinski-Paquette, who was 29 years old, who died on May 27th, 2020. And this is taken from a CBC article. Speakers at the news conference denounced Ontario's Special Investigations Unit for clearing five police officers and wrongdoing of her in her death. The unit investigates the conduct of police that may have resulted in death, serious injury, assault, or the discharge of a firearm. This is a quote from Beverly Bain, a member of No Pride in Policing Coalition. Regis has not had any justice. It's really critical for people to be gathering today to remember Regis, but also to mark that after 1 year, there has not been any accountability, any responsibility taken by the Toronto Police Service for the death of Regis, she added. According to her lawyers, according to the alternative investigations that were done, it's pretty clear that there is suspicion here and that the police did not do their job. If anything, the police endangered her. There was a lack of care. Also, what happened was that there was targeted arrests and at the large crowd at the demonstration for Regis Korchinski. So there was a sit-in at Young and Girard demanding the release and of the person arrested. And later, the person that had been arrested was released because people demanded it and refused to leave. But it's a real shame that the Toronto police were arresting organizers and re-traumatizing folks that were grieving at a family-led memorial march. Some have said it was a beautiful day to honor Regis and demand justice and accountability, and that Regis's family calls for further deeper investigation into her death while in police custody. If you can make a donation to the Korchinski-Paquette family, now is the time to do so. There is a GoFundMe, so if you search Regis Forever, Regis, so R-E-G-I-S, four, like the number four, and then ever, which is organized by Peter Korchinski-Paquette. So it says, our daughter Regis went off the balcony 24 floors high to her death while in our apartment, alone with four police officers and an additional two police officers guarding the main door, keeping family out. This is an extremely big case. We need many experts to help us with our case for Regis. We appreciate any help. So please go to the GoFundMe and make a donation if you can, or if you have expertise in any kind of expertise that they could use for the case, you could always send a message to Peter Korchinski, who is organizing the GoFundMe. Paul Taylor, who is an NDP candidate and the ED of Food Share in Toronto, had some powerful words, and we have them here for you to listen to, so take a listen. This is Paul Taylor on Monday, May 24th, at the commemoration for the life of Regis Korchinski-Paquette.
Anti-black racism is killing us. Anti-indigeneity is killing us. The police are killing us. Calling for help should never be a death sentence. We know what happens when we encounter the systems that are meant to protect us. We end up penniless, we end up disabled, or we end up dead. Yes. Our communities are constantly forced to grieve. Those of us that remain are tired, yes. And we've been tired for a long time. Yes. Just stop killing us! Where is the actual progress? Where is the continued support for families like the Korchinski-Paquette family? Regis and her family deserve justice. They deserve our continued support, and they deserve real change.
Yes.
Together we will continue to fight for it. We won't stop until we're free. Black liberation.
For those of you just tuning in, we just listened to Paul Taylor. He is an activist, a leader, an educator. He's the ED of Food Share Toronto, and he accepted the federal nomination, NDP nomination, for Parkdale High Park. And those were his words that we were listening to coming to us from a gathering to commemorate the life of Regis Korchinski-Paquette. Our last announcement is about an important panel conversation, which is happening this evening at 5 p.m. It's called Searching for Justice, the Case of Suleiman Fakhiri. We've had Yusuf Fakhiri, who's the brother of Suleiman Fakhiri, on Prism Radio show several times. We've been following the story. And so this is a panel conversation. It's happening at 5 p.m. Today. So basically in December 2016, Suleiman Fakhiri suffered fatal injuries in an Ontario jail whilst waiting for a mental health assessment. No guards were charged for his death. Suleiman's case serves as an example of a man who lost his life in an institution that was supposed to take care of him. Now, years later, his family is still searching for justice. This panel brings together activists, journalists, and human rights advocates from Canada and the United States to discuss accountability in the criminal justice system and the treatment of people suffering with mental illness. And there's several panelists. So there's his brother, Yusuf Fakhiri, who's been on our show. And there's several other people, Michelle Shepard, who's an investigative journalist, and Rabia Chaudhry, who is the author of the New York Times bestseller Adnan's Story and the host of the Undisclosed podcast, and also Yusuf Zeen, who's the host of Unascertained podcast around Suleiman's case, and a film director and actor known for I Am Rohingya, Fame and Fidelity, and Righteous Sinner, and also Evan Solomon, a columnist, political journalist, and host of the Evan Solomon Show. So the event will be moderated by Munasar Ahmed, president of the Concordia Forum, and recorded for the PR Unmasked podcast. So if you just search the Concordia Forum, you should be able to find information. Or if you search for Concordia Forum, in addition to searching for justice, you should be able to find the information for today. We will take a short musical break to play the song I Can't Breathe by the artist Her. This song I'm dedicating to everyone who's died, who's been killed at the hands of police violence, police brutality, police murder, and everyone who's died in prison at the hands of the carceral system and guards and officers and police.
At the same time, all the corruption and justice, the same crimes, always a problem. to defend her. If we all agree that we're equal as people, then why can't we see what is evil? Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy resulting in your ignorant, privileged eyes. We breathe the same and we bleed the same, but still we don't see the same. Be thankful we are God-fearing because we do not seek revenge. We seek justice. We are past fear. We are fed up eating your shit because you think your so-called black friend validates your wokeness and erases your racism. That kind of uncomfortable conversation is too hard for your trust fund pockets to swallow. To swallow the strange fruit hanging from my family tree because of your audacity to say all men are created equal in the eyes of God, but disparage a man based on the color of his skin. Do not say you do not see color. When you see us, see us. We can't breathe.
If you're just tuning in, that was the track I Can't Breathe by the artist Her. Today we are featuring an interview with Alessandro Stella. Alessandro is an Italian political refugee who lives in France. He spoke with us about the situation facing Italian political refugees in France, seven of whom were arrested at the end of April and are facing extradition to Italy. The interview is in French.
On t'a invité de nous joindre aujourd'hui pour parler de la situation en France concernant les ex-militants italiens et les récentes nouvelles que tu as décrites dans ton article qui s'appelle « Ombre rouge » sur le site lundi matin. Et premièrement, est-ce que tu peux te présenter pour nos écouteurs?
Oui, je m'appelle Alessandro Stella. J'ai 65 ans. J'étais à l'âge de 15 ans dans Poter Operaio, l'un des groupes extra-parlementaires, comme on disait à l'époque, en Italie. Et puis, à partir de 1973 et par la suite, j'étais dans l'autonomie ouvrière italienne. Et aujourd'hui, ensuite, je me suis réfugié en France comme des centaines d'autres Italiens rescapés de la prison dans les années 80, et je suis devenu ensuite directeur de recherche CNRS et professeur à l'école de haute transition sociale en anthropologie historique. Voilà, j'ai travaillé en tant que chercheur et professeur universitaire sur plusieurs thématiques, la révolte sociale ouvrière, l'esclavage, les métissages, les relations femmes, les genres, sexualité, et dernièrement, ces dernières années, je travaille sur les drogues, les usages des psychotropes.
En fin avril, c'était dit dans les médias qu'un nombre d'ex-militants italiens ont été arrêtés en France. Est-ce que tu peux nous décrire la situation? Combien de personnes ont été arrêtées et pourquoi ont-ils été arrêtées?
Et il y a eu une sélection sur encore, je ne sais pas combien précisément, des 300 anciens militants révolutionnaires de l'organisation traditionnelle en Italie, une sélection depuis des ans de la part du ministère de la Justice français et du ministère de la Justice italien. Ils ont sélectionné 10 personnes et ils en ont arrêté 9 fin avril dernier. S'est échappé et pour cause. Et parce que la date de prescription de sa peine en Italie était le 10 mai dernier, donc comme il n'a pas été arrêté, heureusement avant le 10 mai, et maintenant il est libre. Il ne peut pas être extradé en Italie, puisque sa peine était prescrite en Italie. Et pour les 9 autres, ils ont été arrêtés, puis le lendemain libérés, et mis aux arrêts domiciliaires. Les passeports, cartes d'identité confisquées et ils ont des obligations de signature auprès du commissariat local où ils habitent et ils sont sous procédure d'extradition du tribunal de Paris. Voilà. Et maintenant, la prochaine audience, il y en a déjà eu deux. La prochaine audience sera le 9 juin prochain. Il y a l'iter judiciaire qui est en cours pour que le tribunal statue sur donner un avis favorable ou défavorable à l'extradition. Et ensuite, dans le cas d'extradition, c'est au pouvoir politique, in fine, qui échoue la décision finale. Donc, quoi que dise le tribunal français, donner un avis favorable ou défavorable à la tradition. Infine, le Premier ministre ou le président français peut décider à sa guise d'envoyer en Italie ou pas les personnes concernées.
Tu as écrit d'autres articles sur les années 70 en Italie ainsi qu'un livre sur le sujet. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur les groupes dans lesquels les arrêtés étaient impliqués? Et le contexte dans lequel ils ont été arrêtés en Italie?
Eh bien, c'est franchement dégueulasse, c'est ahistorique et horrible. Et aujourd'hui, que ces 10 anciens camarades soient sous les coups d'un procès d'extradition et qu'ils puissent finir leur vie, leurs années de vie qu'il leur reste à vivre encore en prison en Italie, comme Cesare Battisti, dans des conditions de détention horribles, un isolement total. Voilà. Et alors que quand même ils sont âgés et qui ne prennent plus aucune menace. C'est incroyable, ils ont été arrêtés à 6h du matin par les forces antiterroristes françaises superarmées, alors que bien depuis 40 ans ils ont déposé les armes et qu'ils n'implantent plus aucune menace pour personne. Voilà. Et ce sont des gens qui après ils ont eu chacun leur parcours de vie. Voilà, mais bon, plus personne a continué la lutte armée qu'on faisait dans les années 70 en Italie. Et donc c'est absolument horrible. Et parce que aussi, on ne peut pas juger 40 ans ou 50 ans même après les faits. Et des personnes individuellement de ce qui s'est passé en Italie, qui était une expérience collective révolutionnaire et insurrectionnaliste dès ce temps-là. Et parce que le climat politique, social et répressif n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nous étions la génération née dans l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et pour des Italiens, c'était pas rien. C'est-à-dire que nous avons poussé, nous avons vécu notre enfance, notre adolescence, en écoutant des récits d'anciens partisans. Moi, je viens d'une région, la Vénétie, en Italie, où il y a eu beaucoup de groupes de résistants. Et donc, dans les années 60-70, la résistance jusqu'à l'emploi des armes contre des fascistes, contre les nazis, était légitimée, puisque la génération précédente avait vécu 20 ans de fascisme, la guerre, l'oppression, la prison, les tortures, les exécutions des partisans, et donc la violence contre les fachos était légitimée. Dans les années 70, nous avions en tête aussi les guérillas en Amérique latine, Che Guevara en particulier, Cuba, la guerre de libération. Nous avions en tête la guerre de libération des pays colonisés, en Algérie, au Maroc, au Vietnam, la guerre du Vietnam. Et donc la légitimité des Vietnamiens de s'insurger contre la colonisation française d'abord, américaine ensuite. Nous avons vécu par ricochet les coups d'État au Chili en 1973, et qui mettait en scène que prendre le pouvoir par les urnes, par la votation, comme avait fait Allende, et bien en fait ça menait à rien, puisque ensuite les militaires pouvaient faire un coup d'État, tuer les présidents légitimement élus, et ça sera. Donc voilà, que des milliers, plusieurs milliers, il y a eu 60 000 personnes renvoyées devant le tribunal en Italie à la fin des années 70, dans les années 80. 6 000 condamnés à des lourdes peines de prison. Bon, vous voyez, plusieurs milliers de personnes qui ont pris les armes dans l'Italie des années 70. Et pour cause, parce qu'on vivait une période qu'on croyait insurrectionnelle et qu'on voyait et qu'on voulait révolutionnaire. Voilà. Et où la violence était d'abord la violence qui était faite aux ouvriers, aux syndicalistes, d'accord, à ceux qui se révoltaient. Entre 48 et 70, il y a eu 200 manifestants tués en Italie, d'accord, à Barrière par la police anti-émeute italienne. Bon, nous avons riposté à ça. C'était d'abord de l'autodéfense. Et après, la confrontation a fait en sorte que Et un certain nombre des militants ont choisi non seulement de prendre les armes, mais de passer même à l'homicide politique. Bon, et ça c'était un mouvement général qui voulait ça. C'était pas la responsabilité des 10 Italiennes et Italiens qui sont aujourd'hui réclamés par l'Italie. Ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est impossible. C'est une responsabilité collective. Un mouvement vaste. Voilà, et donc c'est parfaitement injuste et historique de vouloir faire payer des dettes à ces 10 camarades.
Puis après les années 70, il y a beaucoup de personnes qui sont allées en France pour devenir les réfugiés. Puis, tu as mentionné Cesare Battisti, qui a été extradé en 2019 de Bolivie. Et ça me semble que l'Italie a essayé d'autres fois d'extrader les ex-militantes en France. Mais qu'est-ce qu'il a changé dans les années récentes qui produit cette situation cette année quand les personnes ont été arrêtées? Qu'est-ce qui a changé?
Il y a une doctorante italienne qui est en train de faire une thèse doctorale en France. Qui s'appelle Monica Lanzoni et qui a travaillé sur les réfugiés politiques italiens des années 70 en France. Et il y a eu environ un millier qui sont réfugiés en France, les années 80 et 90. Et il y a eu une centaine de personnes, moi compris, qui ont été arrêtées depuis les débuts des années 80 jusqu'aux années 2000. Une centaine. Et une centaine de personnes qui sont passées devant les tribunaux. Et que soit le tribunal a arrêté individuellement, et soit le tribunal français a donné avis favorable à l'extradition, soit il a donné avis défavorable selon les pièces et les dossiers qu'ils avaient, parce que les jugements en Italie ont été parfaitement fabriqués, et avec des lois d'exception, des façons d'exception, des juges d'exception. Ça procède totalement à charge, la défense pouvait dire ce qu'elle voulait, qu'il n'y avait pas de preuves, ça ne comptait rien. Bon, donc tout ça, ça s'est déjà réévalué. Mais donc, il y a eu une centaine d'Italiens réfugiés en France qui ont été, en 20 ans, 30 ans, arrêtés et passés devant le tribunal français. Et qu'in fine, le pouvoir politique des Mitterrand à Chirac, Sarkozy, Jospin, et même Sarkozy, tous ont refusé l'extradition à l'Italie, tous. Il n'y a eu aucune extradition des réfugiés italiens accordée par la France à l'Italie, aucune. La seule exception étant Paolo Pesichetti, qui n'a pas été extradé, a été pris par la police française, et en 2004, je pense, et donc, remis à la police italienne sous le tribunal du Mont-Blanc. Bon, mais ce n'était pas une extradition, c'était une voie de fait policière. Parce que la France, quand même, pendant 30 ans, 40 ans, désormais, respectait ces pactes, cet accord entre l'État français et les réfugiés italiens qui étaient, bon. L'État français avait dit, vous venez ici, d'accord, vous restez tranquille, vous abandonnez les armes, vous ne faites pas de bordel, et en échange, on vous laisse tranquille et libre. Et c'est ce qui s'est passé pendant 40 ans. Et là, Macron, les revirements de Macron, à quoi ça tient? Ça tient d'une part au fait que depuis 40 ans, l'Italie continue à agiter les spectres du terrorisme. Comme j'ai écrit sur mon article sur Paris sur lundi matin, agiter les spectres des ombres rouges, les fantasmes qui vont revenir à perturber la paix, le sommeil des bons Italiens bien pensants et tranquilles. Voilà. Et c'est le spectre de l'antagonisme contre l'État capitaliste, c'est ça qu'il s'agit. Et donc les gouvernements italiens de tous bords depuis 40 ans utilisent le spectre du retour des Brigades Rouges pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement sociale qui se radicalise. Voilà, c'est ça, et d'une part. Et d'autre part, l'État français, l'État de Macron, pourquoi il a pris cette décision maintenant? Parce que Macron et toute la classe politique française, comme on a vu hier à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale à Paris, et ben tout le monde devait être plus sécuritaire que l'autre. Et donc, la principale préoccupation de Macron et de tous les hommes politiques français, en fait, est de se présenter comme des hommes de sécurité. La sécurité, c'est le principal souci de la population, soi-disant. Moi, je pense que la sécurité est sans doute le principal souci de la population, mais c'est la sécurité des vies. Pas la sécurité vis-à-vis des voleurs, des cambrioleurs, c'est la sécurité de vie. D'avoir un salaire, d'avoir un poste de travail, d'avoir une retraite, d'avoir une sécurité sociale, c'est ça la sécurité pour le peuple. Hein? Oui. C'est pas la sécurité des fascistes, la sécurité des fascistes c'est la botte répressive et taper sur les délinquants, et en France les délinquants sont de plus en plus caractérisés comme des noirs des arabes, pour les clairs. Et c'est très raciste, c'est discriminant. Et donc Macron a pris cette position, cette décision vis-à-vis de l'Italie. Il a fait ce pacte scélérat avec les gouvernements italiens de renvoyer une dizaine d'Italiens comme bouc expiatoire. Et c'est parfaitement dans la droite ligne de vouloir se présenter comme. Voilà, la sécurité est ma priorité. Et donc, le terrorisme, ces monstres, les temps modernes, voilà, je les combats. Et donc, Macron, le gouvernement français durcit de plus en plus les lois répressives, liberticides, sous prétexte des luttes contre les terroristes, qui aujourd'hui, les terroristes sont identifiés par l'opinion publique avec les terroristes djihadistes islamistes. Et c'est que je trouve aussi insupportable, parce que moi, on m'a collé il y a 40 ans l'étiquette des terroristes, je ne supporte pas. Je ne supporte absolument pas, parce que maintenant, terroriste, c'est équivalent à djihadiste qui fait des massacres indiscriminés au Bataclan, tuer des Français puisque ils sont passés, puisqu'ils sont chrétiens, alors qu'en Italie, les Brigades Rouges, les camarades qui ont aussi tué, ben c'était des personnalités politiques, des généraux de l'armée, des carabiniers, c'était ciblé, c'était pas indiscriminé. Et c'était des attentats politiques, pas contre n'importe qui. L'extrême droite, avec le service secret italien, ont pratiqué la stratégie d'attention en Italie en mettant des bombes dans les gares, sur les places pendant un comice syndical, etc. etc. Mais pas nous.
Est-ce que tu as dit qu'il était les manifestations en France en soutien des personnes italiennes qui étaient arrêtées?
Il y a eu des manifestations. Il y a eu le 1er mai, il y a eu une banderole Libertà pour les exilés politiques italiens arrêtés, non à l'extradition. Et il y a de plus en plus d'initiatives qui se font. Cet après-midi est paru sur Le Monde, une tribune que nous avons fait avec des universitaires et des artistes. C'est la règle, disais, depuis Sartre, les pétitions. Okay. C'est des universitaires et des artistes. Ben, quand même, on a publié une tribune signée par 300 personnalité, comme on dit, entre universitaires, artistes, y compris Tardy, Pierre Lemaitre, Prix Goncourt, il y a des gens, et beaucoup d'autres. Donc, on espère que ça puisse faire bouger un peu l'opinion publique française, qui est matraquée par tous les discours sécuritaires et policières, etc. Et comme si j'allais fondre un camarade ici, dans Compé. Avec ce temps Compé, dans ce climat horrible qui n'est pas seulement français, qui est un climat des disons, les mots, des pré-fascismes, je pense que la question des arrestations des Camerounais italiens entre dans cette direction horrible qui ont pris les États et les institutions policières pour, voilà, qui était une loi qui prépare au fascisme. Hein, ça. Je pense qu'on n'est pas très loin, malheureusement.
T'as mentionné ça un peu, mais dans tous les articles sur les arrestations récentes, les médias citent Macron qui dit que France est aussi affectée par le terrorisme et comprend le besoin absolu de fournir de la justice pour les victimes. Et c'est juste si t'as d'autres choses à dire concernant le mot terrorisme en ce cas-là, puis qu'est-ce que l'État gagne en appelant ces personnes les terroristes?
On comprend bien que les personnes qui ont été, qui ont perdu un proche, un familier dans des attentats terroristes, aussi bien en Italie dans les 70 que dans les années 2000 en France par des terroristes djihadistes, puissent demander justice. Mais les associations des victimes du terrorisme ne peuvent pas se substituer aux tribunaux et à la loi qu'on dit positive, d'accord, au juge. Et ce n'est ni aux proches des victimes, ni aux policiers de faire justice. C'est, et ça fait des siècles quand même, c'est aux tribunaux qui ont les moyens et les prérogatives de mener une instruction judiciaire, prendre en considération les accusations et les éléments de défense, et ensuite d'arbitrer et de juger. Autrement, c'est la loi d'Italien. Et on revient. Plusieurs siècles en arrière. C'est pas possible. L'association des victimes, de plus en plus, ont pris une place. Ils voudraient être la place des juges. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Comme les policiers hier à Paris réclamaient d'être à la place des juges et des premiers secrétaires du Parti Socialiste français et du Parti communiste français, c'est horrible. Et ils ont dit hier que les policiers devaient avoir un droit de regard aussi sur l'application des peines. Ah non, en France, il y a un juge de liberté de détention, d'accord, qui, c'est lui qui juge si quelqu'un doit être gardé en détention ou s'il doit être mis en liberté surveillée, ou s'il doit être libéré. Et c'est des critères juridiques qu'ils doivent prévaloir, pas la loi d'Italien, parce que les proches des victimes demandent que l'accusé ou le condamné finisse sa vie en prison, ou voire qu'il soit exécuté avec la peine de mort. C'est ça. Et donc c'est pas possible, ce n'est pas supportable. Et quand je pense que dans la situation des victimes en Italie, il n'y a qu'une association des victimes contre les groupes armés d'extrême gauche. Et il n'y a pas d'association des victimes des groupes armés, des services secrets italiens et des fascistes italiens. Il n'y en a pas. C'est bizarre, curieux. Et en particulier, moi j'ai eu droit à une interview avec El País, le journal espagnol, il y a une dizaine de jours. Et après, le journaliste il a publié l'article avec mon interview et l'interview de Mario Calabrese. Qui est Mario Calabrese? C'est l'ancien directeur du journal italien La Repubblica, le journal de gauche, qu'on dit, ou ça se souvient en tout cas, et qui est le fils de Luigi Calabrese, le premier mort par la main des groupes armés d'estrême gauche en Italie en 1972. Et donc Mario Calabrese prend toujours comme victime, parce qu'il avait 3 ans quand son père, commissaire de police de Milan, a été tué. Mais il a été tué pourquoi? Parce que son père avait été l'assassin de Giuseppe Pinelli, qu'il avait arrêté un nazisme de Milan en 69, après le 12 décembre 69, quand les fascistes italiens, avec le service secret italien, avaient fait exploser une bombe à la Banque de la Culture de Milan, faisant 17 morts et une centaine de blessés. Voilà, et donc la police de Milan avait inculpé les anarchistes. Ça a été complètement dingue. Et donc, Giuseppe Pinelli, il est tombé du quatrième étage par la fenêtre du commissariat. Voilà. Bon. Si vous pensez que quelqu'un puisse tomber des fenêtres du commissariat du quatrième étage, alors que quand on est en garde à vue, on est menotté, d'accord? Et donc, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se jeter de la fenêtre. Bon. Donc, le commissaire Calabrese était responsable d'homicide du cheminot Giuseppe Pinelli. D'accord? Donc, son fils, Mario Calabrese, qui est devenu un juriste célèbre en Italie, ne veut pas continuer à se présenter lui comme victime et son père comme une victime. Son père, il était tué en tant que, non pas comme victime, en tant qu'assassin, d'accord, par un commando de militants de l'extrême gauche, bien sûr, oui. Mais parce que des millions de personnes en Italie, en ce moment, réclamaient la tête du commissaire Calabrese. Des millions. D'accord, qui ont crié dans la rue, dans les manifs, moi aussi j'ai crié, Calabrese assassin, on aura ta peau. Et bien, puis quelqu'un l'a tué, voilà. C'est ça l'histoire, c'est la réalité, on ne peut pas la gommer, cette réalité.
Est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont être arrêtées en France, qui est dans la même situation des personnes qui étaient arrêtées en avril?
Bien sûr, il y a un an et demi, l'Italie avait publié une liste d'une vingtaine de personnes. Et là, ils ont arrêté 10, 9 plutôt, et ils ont sélectionné. Mais ils pourraient en avoir d'autres, bien sûr. Mais c'est peut-être un test fait par l'Italie et la France. S'ils arrivent à extrader ces 9, après ils peuvent élargir le cercle, vous voyez.
C'est juste que est-ce qu'il y a une date limite? Après ça, c'est pas possible pour l'État français et l'État italien de faire les arrestations de ces personnes-là.
Maurizio Di Marzio, un des 10 dont l'Italie voulait l'arrestation et l'extradition, et qui ne s'est pas fait arrêter, et qui donc, parce qu'il devait attendre la date du 10 mai pour que sa peine en Italie soit prescrite. Bon, pour d'autres aussi, des nefs. En accusation aujourd'hui, il y a ce délai de quelques mois, un an d'attente, mais ils doivent rester en France. S'ils sont installés en Italie, la prescription tombe à l'eau. S'ils restent en France, la prescription dans quelques mois ou dans un an ou deux, pour les autres, va arriver à échéance aussi, et donc ils seront libres et non. Il peut plus être poursuivi. Et donc il y a des délais, et donc évidemment pour la défense juridique des camarades, plus la procédure, l'iter juridique dure, mieux c'est. Mais j'ai l'impression que l'État français qui est à la manœuvre veut aller vite. Parce que la prochaine audience, le 9 juin, ça veut dire que. Il y aura eu 3 audiences en 3 semaines, ce qui est rapide. Mais à mon avis, il va aller vite. Pour se débarrasser de ces problèmes qui empoisonnent la relation entre la France et l'Italie depuis 40 ans.
Tu as dit qu'il y a une bannière à une manifestation en France, mais est-ce qu'il y a des autres actions qui se passent en solidarité avec les personnes qui fassent cette situation en France?
Il y a différents comités autour des personnes menacées d'extradition en France et à Paris et dans Savalier en particulier. Nous avons organisé une coordination des groupes de soutien. Il y a différentes initiatives qui se passent. Comme la tribune Paris sur le monde aujourd'hui et d'autres initiatives, nous serons présents à la manifestation du 29 mai prochain, samedi 29 mai, il y aura une manifestation à Paris en commémoration de la commune, 150 ans après, la commune de Paris, 1971, nous sommes en prison avec une banderole et des chants, des slogans des années 70. Il y a pas mal de soutien parce que l'effet qu'on a réussi quand même à récolter en quelques jours, 300 signatures d'universitaires et d'artistes connus, dit bien que malgré la pression politique et médiatique qui présentait les camarades arrêtés comme des criminels responsables des crimes de sang, c'est ça, et donc inexcusables, eh bien, finalement, il y a des centaines de personnes qui n'ont pas avalé cette présentation et qui sont encore là à défendre la dimension politique des actes et donc des personnes compliquées, concernées, impliquées dans ces faits. Et c'est rassurant. C'est rassurant.
J'ai une question un peu différente. J'aime beaucoup tes articles sur le sujet dans lundi matin, mais il y a une chose qui m'a confus un peu. Tu as écrit que la police française est un peu comme John Wayne, l'acteur américain qui joue un cowboy dans les films western. Et par implication, je pense que tu dis aussi que les ex-militants italiennes sont comme les autochtones de soi-disant États-Unis. Puis aussi, tu as utilisé une phrase qui en anglais, les groupes autochtones ici sont en train de se battre dans une lutte pour changer les noms d'équipes de sport et les mascottes racistes, puis tout ça. Et c'est juste pour savoir pourquoi cette comparaison dans ton article.
Non, parce que j'ai dit au début de mon article, ce lundi matin, que c'est la police française italienne qui a nommé l'opération pour arrêter les camarades Ombre Rouge. Et donc, je me suis dit, ça doit venir de la culture des flics, c'est-à-dire une culture macho, et donc western à outrance, et western de deuxième classe, parce que John Wayne, c'est western, un mauvais western. Voilà. Et le fait qu'ils aient intitulé leur opération Ombre Rouge, ça s'en dit long, parce que c'est des ombres rouges, des spectres qui sont agités, c'est les drapeaux rouges agités comme un temps du macartisme aux États-Unis pour faire peur aux gens. Quoi. Et c'est une culture vraiment policière, de droite, fasciste, parce que qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai appris depuis 50 ans qu'il n'y a pas, que derrière l'uniforme des policiers, il y a des hommes et des femmes qui ont une idéologie. Et malheureusement, cette idéologie est fondamentalement fasciste. Ah oui. Et la manifestation hier des policiers français qui s'apprêtent à voter à 60-70% pour Marine Le Pen pour cette élection, et ben, c'est pas seulement l'uniforme, c'est pas la fonction seulement répressive, confiée évidemment aux forces de l'ordre et de la police. Mais il y a une idéologie derrière, c'est une idéologie fasciste. C'est en Italie, dans les années 70, on s'est rendu compte que les policiers, ils n'étaient pas tous pareils. Ceux qui nous tapaient dessus et qui voulaient notre tête, c'était les policiers qui avaient une idéologie fasciste. Parce qu'il y avait des policiers, moi je l'ai connu, surtout de la police politique, et qui étaient un peu des pépères qui votaient socialistes ou démocrates chrétiens, qui étaient un peu humanistes, bon, qui n'étaient pas fascistes. Mais ceux qui voulaient notre peau, c'était des fascistes. Ou alors, par la suite, des flics et des juges en Italie qui étaient communistes, c'est-à-dire staliniens, quoi, et qui voulaient notre peau parce que nous étions leurs adversaires dans le mouvement ouvrier, les gauchistes. Voilà. Mais les stalinistes sont fascistes comme les fascistes de l'extrême droite, quoi. C'est des hommes d'ordre, quoi. Des hommes d'État, quoi. Et la police, pour eux, ils aiment la police, ils aiment l'armée. Ils aiment la prison.
Comment est-ce que les personnes qui veulent savoir plus de cette situation, t'as dit qu'il y a les groupes de soutien, comment est-ce que les personnes qui veulent trouver d'autres informations peuvent le faire?
Nous avons monté une page Facebook pour relayer et répercuter toute la campagne et ça s'appelle la page Facebook Campagne non extradition exil italien, qu'on peut suivre donc au jour le jour.
Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire que je n'ai pas demandé?
Oui, je pense, j'ai lisé dans mon article jeudi matin que si pour l'Italie l'épouvantail est encore aujourd'hui les ombres rouges, les ombres du communisme, de la révolution prolétarienne, pour Macron, pour les gouvernements français aujourd'hui, les ombres qui font peur à l'État, c'est les ombres jaunes, des gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, c'est un mouvement qui a explosé, vous savez, à fin de 2018, et qui hante encore les sommeils des bien-pensants, de la bourgeoisie, qui ne veut plus voir les prolos, les gays, les morts de la faim, saccager les beaux quartiers, les Champs-Élysées. C'est ça qui fait peur aux États. Et c'est pourquoi ils continuent à pourchasser des anciens militants. Moi, je suis encore militant, mais d'autres ne sont plus. Mais ils ont quand même gardé leur morale révolutionnaire quand même. Et anti-système. Et voilà, c'est ça qui fait peur aux États. C'est pourquoi les camarades italiens sont aujourd'hui boucs expiatoires d'une volonté de vengeance et en même temps sert à dire quiconque veut se révolter, attention, si vous révoltez trop, vous pouvez finir en prison et pour longtemps. Voilà. Et c'est ça le message qui est envoyé. Et bien, je pense que qu'il y a encore heureusement des résistants et que l'histoire n'est pas finie.
That was Alessandro Stella, an Italian political refugee who lives in France and is supporting the 7 Italians who were recently arrested in France and are facing extradition to Italy to serve prison sentences related to political activities they participated in during the 1970s. Alessandro has written articles about the situation facing Italian political refugees for the French website Lundi Matin. You're listening to a pre-recorded episode of the Prison Radio Show on CKUT 90.3 FM, 91.7 on cable, and online at www.ckut.ca. The station is currently closed due to the COVID-19 pandemic, but still trying to air as much original content as possible. You can check out past episodes of the Prison Radio Show at prisonradioshow.wordpress.com. You can also follow us on Twitter at Prison Radio Show. Prison Radio Show is now a podcast. You can check out episodes of the PRS podcast on Libsyn or anywhere you get your podcasts. The Prison Radio Show airs twice a month on CKUT. We air on the second Thursday of the month at 5 p.m. and the fourth Friday at 11 a.m. The next Prison Radio Show will air on Thursday, June 10th at 5 p.m. If you have any questions on anything that you've heard on today's show or you wish to be involved with the show, feel free to contact us at prison@ckut.ca. Formerly incarcerated people are encouraged to participate. Folks can also leave a message on our new listener comment line at 438-337-8423. 438-337-8423. If you are in prison, we encourage you to participate in the show in any way possible. Feel free to write to us at the Prison Radio Show or simply write PRS, care of CKUT, 3647 University Street, Montreal, Quebec, H3A, 2B3. Thank you so much for tuning in to the Prison Radio Show on CKUT 90.3 FM. My name is Yasmin and I've been your host for today. Please stay tuned. Thank you.
Good afternoon. You're tuned to Butcher T's Noontime Cuts, hitting every Friday from noon to 2, playing your wide variety of music just to make your afternoon delight just right. So stay locked to CKT 90.3 FM. Fire!